Chapitre 6. Mr. Victor Hazel. Le vendredi suivant, alors que nous dînions dans la roulotte, mon père m'a dit « Si tu es d'accord, Danny, je sortirai de nouveau demain soir. » « Tu veux dire, pour aller braconner ?»«
Oui. »
« Encore dans les bois de Hazel ?»«
Ce sera toujours dans les bois de Hazel, » a-t-il répondu.
D'abord parce que c'est là que se trouvent tous les faisans. Ensuite, parce que je n'aime vraiment pas Mr. Hazel et que c'est un plaisir de lui braconner ses oiseaux. Je dois m'arrêter ici pour vous parler un peu de Mr. Victor Hazel. Il était brasseur de bière et possédait une immense brasserie. Il était riche au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, et ses terres s'étendaient sur des kilomètres de part et d'autre de la vallée. Tout lui appartenait autour de nous, des deux côtés de la route, tout à part le petit lopin de terre sur lequel se trouvait la station-service. Ce terrain-là était la propriété de mon père. C'était un petit îlot au milieu du vaste océan que possédait Mr. Hazel. Victor Hazel était un arriviste. Un parfait snob qui essayait désespérément de fréquenter ce qu'il considérait comme les gens bien. Il chassait avec une meute de chiens, organisait des parties de chasse et portait des gilets magnifiques. Chaque jour de la semaine, il passait devant notre station-service au volant de son énorme Rolls-Royce argenté en se rendant à la brasserie. Quand il filait devant nous, nous apercevions parfois au-dessus du volant sa grosse tête luisante de bière, rose comme un jambon, molle et rougeaude d'avoir vidé trop de chopes. « Non, vraiment, je n'aime pas du tout Mr. Victor Hazel, » a répété mon père. « Je n'ai pas oublié la façon dont il t'a parlé l'année dernière, quand il est venu faire le plein. » Moi non plus, je n'avais pas oublié. Mr. Hazel s'était arrêté devant les pompes à essence, dans sa Rolls-Royce flamboyante, et m'avait dit
« Fais-moi le plein et applique-toi !»
J'avais 8 ans à l'époque. Il n'est pas descendu de la voiture. Il m'a simplement tendu les clés du bouchon d'essence et a aboyé en même temps.
« Et attention avec tes petites mains dégoûtantes, compris ?»
Je ne comprenais pas, et j'ai répondu « Qu'est-ce que vous voulez dire, monsieur ?» Il y avait une cravache de cuir sur la banquette arrière. Il l'a prise et l'a pointée sur moi comme un pistolet.
« Si jamais tu laisses des traces de doigts sur ma carrosserie, je sors de cette voiture et je te donne une bonne correction !»
Mon père est sorti de l'atelier, pour ainsi dire, avant même que Mr. Hazel ait fini sa phrase. Il s'est avancé à grands pas vers la fenêtre côté conducteur. Il a posé les mains sur le rebord de la portière et il s'est penché vers lui. « Je n'aime pas que vous parliez comme ça à mon fils, » a-t-il lancé. Sa voix était douce, mais menaçante. Mr. Hazel ne l'a pas regardé. Il est resté assis, immobile, dans la Rolls. Ses petits yeux porcins fixés devant lui. Les coins de ses lèvres s'étaient retroussés en un petit sourire supérieur. « Vous n'avez aucune raison de le menacer, » a poursuivi mon père. « Il n'a rien fait de mal. » Mr. Hazel a continué à faire comme si mon père n'avait pas été là. La prochaine fois que vous menacez quelqu'un de lui donner des coups de cravache, arrangez-vous pour qu'il ait la même taille que vous, a dit mon père. Comme moi, par exemple. Mr. Hazel ne bougeait toujours pas. Et maintenant, allez-vous-en, s'il vous plaît, a ajouté mon père. Nous n'avons pas envie de vous servir. Il m'a repris les clés des mains et les a lancées à l'intérieur de la voiture. La Rolls est repartie très vite dans un nuage de poussière. Le lendemain, un inspecteur du département local de la santé publique est arrivé à annoncer qu'il venait inspecter notre roulotte. « Et pourquoi vous voulez inspecter notre roulotte ?» a demandé mon père.
« Pour voir si des êtres humains peuvent y vivre sans risque, » a répondu l'homme. « De nos jours, on ne laisse plus les gens habiter dans des taudis sales et délabrés. »
Mon père lui a montré l'intérieur de la roulotte qui était d'une propreté exemplaire, comme toujours, et aussi confortable que possible. Et à la fin, l'homme a dû admettre qu'il n'y avait rien à redire. Bientôt, un autre inspecteur est arrivé et a prélevé un échantillon d'essence dans l'un de nos réservoirs souterrains. Mon père m'a expliqué qu'il vérifiait s'il n'avait pas mélangé de l'essence ordinaire avec le super, ce qui est une pratique courante chez les propriétaires de stations-service pas très honnêtes. Bien sûr, nous ne faisions pas ça. Il se passait rarement une semaine sans qu'un officiel vienne contrôler ceci ou cela, et, selon mon père, il fallait voir là, sans aucun doute, le bras puissant de Mr. Hazel qui s'agitait dans les coulisses pour essayer de nous chasser de notre propriété. Vous voyez donc à peu près pourquoi mon père ressentait un certain plaisir à braconner les faisans de Mr. Victor Hazel. Cette nuit-là, nous avons mis les raisins secs à tremper. Le lendemain, c'était jour de braconnage. Et croyez-moi, mon père ne l'ignorait pas. Le matin, dès le moment où il avait quitté sa couchette, l'excitation avait commencé à monter en lui. C'était un samedi. Je n'allais donc pas à l'école. Et nous avons passé la plus grande partie de la journée dans l'atelier à décalaminer les cylindres de l'Austin 7 de Mr. Pratchett. C'était une excellente petite voiture, fabriquée en 1933, un petit miracle de mécanique qui marchait toujours aussi bien alors que la voiture avait plus de 40 ans. Mon père disait que ces Austin 7, qu'on connaissait mieux sous le nom de Baby Austin, avaient été les premières mini-voitures jamais produites. Mr. Pratchett, qui possédait un élevage de dindes à côté d'Aylesbury, était fier comme un pape de la sienne. Et c'était toujours à nous qu'il l'apportait quand il y avait quelque chose à réparer. Travaillant ensemble, nous avons détaché les ressorts de soupapes et ôté les soupapes elles-mêmes. Nous avons dévissé la culasse et l'avons enlevée. Puis, nous avons commencé à gratter la calamine qui s'était déposée sur la culasse et les têtes de piston. « Je veux être sorti à 6 heures, » a dit mon père. « Comme ça, je serai dans les bois exactement au crépuscule. »«
Pourquoi au crépuscule ?» ai-je demandé.
« Parce que, à cette heure-là, tout se voile. Tout se perd dans l'ombre. » Tu vois suffisamment pour te déplacer, mais il est difficile pour les autres de te voir. Et quand un danger menace, tu peux toujours te cacher dans l'ombre qui devient plus obscure qu'une gueule de loup. Pourquoi ne pas attendre qu'il fasse vraiment nuit? Là, au moins, on ne te verrait pas du tout. Si on faisait ça, on n'attraperait rien du tout. Quand la nuit vient, tous les faisans s'envolent dans les arbres jusqu'au matin. Les faisans sont comme les autres oiseaux. Ils ne dorment jamais par terre. Cette semaine, a ajouté mon père, le crépuscule commence environ à 7h30. Et comme il faut au moins 1h30 de marche pour aller dans les bois, je veux partir d'ici à 6h au plus tard. Ce sera le chapeau collant ou le crin de cheval paralysant, lui ai-je demandé. Le chapeau collant, m'a-t-il répondu. J'aime beaucoup le chapeau collant. Et tu reviendras quand? Vers 10h. 10h30 maximum. Je te promets que je serai là à 10h30. Tu es sûr que ça ne t'embête pas de rester seul?
Tout à fait sûr. Mais tout se passera bien, papa.
Ne t'inquiète pas pour moi, m'a-t-il dit en passant un bras autour des épaules et en me serrant contre lui.
Tu m'as raconté qu'il n'y avait pas un seul homme dans le village de ton père qui n'ait jamais pris de plomb dans les fesses à cause des gardes-chasse.
Ah oui, oui, je t'ai dit ça. Je crois bien. Mais en ce temps-là, il y avait beaucoup plus de gardes-chasse dans les bois que maintenant. Il y en avait presque derrière chaque arbre.
Il y en a combien maintenant, dans les bois de Hazel?
Pas beaucoup, m'a-t-il dit. Vraiment pas beaucoup. À mesure que la journée passait, je voyais mon père de plus en plus impatient, de plus en plus excité. Vers 6 heures, nous avions fini de réparer la baby Austin et nous l'avons fait rouler un peu sur la route, dans les deux sens, pour l'essayer. Nous avons dîné tôt, à 5h30. Il y avait des saucisses et du lard au menu, mais mon père n'a presque rien mangé. À 6h précises, il m'a embrassé et m'a dit « Promets-moi de ne pas m'attendre, Danny. Couche-toi à 8h et dors. D'accord ?» Il est parti en direction de la route et je suis resté sur la plateforme de la roulotte pour le regarder s'éloigner. J'aimais beaucoup la façon dont il se déplaçait. Il avait ces longues enjambées typiques des gens de la campagne qui ont l'habitude de parcourir de grandes distances à pied. Il portait un vieux pull bleu marine et une casquette encore plus vieille sur la tête. Il s'est retourné pour me faire un signe de la main. J'ai agité la main à mon tour, puis il a disparu derrière un virage.